On va commencer avec une question ce matin. Est-ce que vous avez déjà trouvé que évangéliser, c'était parfois difficile? Moi, je lève la... Ouah, ouais. Mais en fait, je savais un peu votre réponse, hein, déjà. Parce que moi aussi, je suis un homme. Et je sais que parfois, parler de Jésus, c'est vraiment pas évident. Et ce matin, je tiens à remercier Jonathan particulièrement parce que il a vraiment mis l'accent sur l'évangile, finalement, sur la bonne nouvelle. Et puis, on a fêté la Sainte Cène. On a vu que Christ est mort pour nos péchés. Il a tout porté pour nous. Et on s'est intéressé vraiment à cette dimension de qu'est-ce que la bonne nouvelle, finalement. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Dieu fait chair, venu porter nos péchés pour nous. Mourir à notre place. Alors ce matin, on va s'intéresser davantage à ça, mais plutôt de comment est-ce qu'on peut, une fois qu'on a intégré cette dimension-là, comment est-ce qu'on peut la partager? Qu'est-ce qui peut nous motiver? Parce que évangéliser, ça reste vraiment difficile. Et même, je dirais, difficile en Belgique ici, notamment. Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'évangéliser, parler de Jésus, c'était plus facile ailleurs, dans un pays étranger. J'ai fait l'expérience d'aller évangéliser pour l'IBB en France. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt facile. Bon, je mets des guillemets, facile. Parce que c'est un pays étranger. Et parce que je ne reverrai pas les gens. Alors je vais vers les gens un peu, tête baissée, j'y vais, allez, on y va, et on parle de Jésus. Mais par contre, quand il s'agit d'être ici, ou près de nos proches, il y a toutes sortes de questions qui viennent. Qu'est-ce qu'ils vont dire après? Et puis moi, après, j'ai encore toute une vie avec eux, peut-être. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous voyez, donc, évangéliser, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et j'entends par le terme ce matin, j'aimerais juste faire un rappel, j'entends par le terme évangéliser, c'est simplement l'acte d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans notre vie de tous les jours, hein. Je vois pas spécialement les grands meetings d'évangélisation à la Billy Graham ou d'autres grandes choses qui se sont déjà passées dans l'histoire de l'Église, même si ça a déjà porté des bons fruits. Évangéliser, c'est simplement parler de Jésus, parler des vertus de Dieu, des merveilles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie et qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie des autres, de ceux qui croient pas en lui. Voilà ce que c'est finalement évangéliser. Et comme je le disais, il y a cette réalité concrète, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Hein, vous êtes à un repas de famille, et vous voyez cette famille plus ou moins une fois par an, et en bon chrétien, vous dites, mais comment je vais pouvoir faire pour partager la bonne nouvelle, pour mettre le sujet sur la table? Et puis vous vous dites, il y a une pensée qui vient, et vous vous dites, oh, je les reverrai peut-être une prochaine fois. Oh, je vais pas les gêner avec ça, ça sert à rien. Et on se laisse avoir à ce jeu-là. Alors, ma première question, et ça sera la première diapo, Jaco, si tu veux bien la mettre. Ah oui, aujourd'hui, j'utilise un PowerPoint, j'espère que ça va aller. C'est ma première fois. C'est mon baptême. Alors, qu'est-ce qui peut nous motiver dans nos efforts d'évangélisation? Qu'est-ce qui peut nous motiver davantage à parler de Jésus autour de nous? Et notre modèle par excellence ce matin, ça va pas être Billy Graham, ça va pas être le grand évangéliste en Afrique ou peu importe dans n'importe quel continent, mais ça va être Jésus, tout simplement Jésus. Et Jésus va nous aider lui-même à considérer quatre sources de motivation quand c'est difficile. Quatre raisons même d'évangéliser, quatre raisons de parler de Jésus quand c'est difficile. Quand on est pris par la peur, par des pensées mauvaise. Alors prenons ensemble Matthieu 9, 35 à 38, mais vous l'avez vu, il s'est affiché hyper rapidement, c'est la technologie. Et donc on va le lire ensemble, Matthieu 9, 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais juste avant de commencer, je vais d'abord laisser ça. J'aimerais juste avant de commencer à partager les quatre clés que le Seigneur nous montre ici dans ce texte, qui nous motiveront. J'aimerais partager une clé, partager une pensée qui est vraiment fondamentale et qui m'a déjà beaucoup aidé quand il fallait parler de Jésus à des gens. Et il y a cette pensée qui me revient toujours quand je suis face à une personne. Et je crois que le Saint-Esprit me dit, Benjamin, aie bien ça en tête parce que c'est important. C'est la pensée que ce n'est pas moi qui devrais être gêné de ne pas croire, de croire en Dieu, pardon. Ce n'est pas moi qui devrais être gêné de croire en Dieu. Mais c'est la personne non-croyante qui devrait être gênée dans le bon sens du terme, embarrassée de ne pas croire en Dieu. C'est la personne non-croyante qui devrait être gênée de ne pas croire en Dieu. Et on voit ça notamment, on voit qu'en Romains 1, il y a, au chapitre 1, donc, il y a un tableau qui se brosse de l'être humain. Et ce tableau-là, c'est une clé pour avoir un juste regard sur l'être humain, plutôt que tout ce qu'il veut nous faire croire en face de nous. Je suis fort, je suis juste, je suis sage, sans Dieu. Non, non. Romains 1, et on va juste parcourir, juste écouter ensemble. Romains 1, chapitre 1, nous dit que les êtres humains sans Dieu, comme nous l'étions avant d'ailleurs, retiennent injustement la vérité captive. Parce que Dieu se fait connaître dans la création. Dieu se fait connaître sa majesté, sa grandeur, sa gloire, sa présence, sa créativité, si je peux dire, se fait déjà connaître dans la création. Et l'homme renie ça. Il la tient captive, cette vérité-là. Il veut pas. Il connaît Dieu, mais il veut pas l'adorer. Et on voit notamment que l'être humain s'égare dans ses pensées encore. À cause de ça, l'être humain s'égare dans ses pensées. Et au lieu d'être sage, il est devenu fou. Ça, c'est un constat que Romains 1 fait de l'être humain. L'être humain sans Dieu est devenu fou. Il se vante d'être sage. Combien de fois, même moi, avant ma nouvelle naissance, je me suis vanté d'être sage. Et combien de fois on entend un athée se vanter d'être athée? Mais il est fou. Il est fou. Et l'être humain s'adore lui-même. C'est-à-dire qu'il est courbé vers lui-même. Il se regarde lui-même au lieu de lever les yeux vers son Créateur. Ne pas croire en Dieu, c'est de la folie. L'être humain n'est pas ce qu'il prétend être. Alors, un conseil, juste, vois-le tel que la parole de Dieu le montre. Et on va voir que, on dit d'ailleurs souvent cette blague à une personne qui stresse quand elle va passer une thèse ou quand elle doit défendre un sujet à son travail. On dit souvent cette petite blague, on dit, ben, tu sais, si tu stresses, imagine la personne en face de toi, mais ne le faites pas, je vous dis déjà d'avance, imagine la personne en face de toi toute nue. Ouais. Hein, vous avez déjà entendu ça. T'as qu'à t'imaginer cette personne toute nue dans son plus simple appareil. Et en fait, il y a quelque chose d'assez important là-dedans. Il y a une notion importante. Ce qu'on est en train de dire, c'est si tu stresses, eh ben, imagine-toi cette personne purement humaine comme toi. Ne la regarde pas comme elle est là, en train de bien en costard, comme elle est, sûre d'elle. Non, 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 non. Imagine-toi telle qu'elle est vraiment. Et dans l'évangélisation, une première clé serait de considérer l'être humain tel qu'il est vraiment. Imagine-toi l'être humain, non pas selon tes sentiments subjectifs, mais selon la réalité objective de la parole de Dieu. Romains 1. Et ce sera une première clé pour nous ce matin. Et on voit en fait que ce principe de considérer l'être humain comme il est va nous rendre davantage intentionnels, plus courageux, et d'aller pour une raison. Et on va voir que ce principe est à l'œuvre dans la vie de Jésus-Christ ici dans notre texte. Et ce sera notre premier grand point. En fait, Jésus connaît la vérité et l'incarne, ce qui le rend intentionnel. Verset 35. On lit au verset 35. Hein, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. En fait, il n'y a pas un lieu où Jésus, en Israël, n'a pas été, si je peux dire. Même les endroits les plus controversés, même la Samarie qui était vraiment mal vue du temps de Jésus, Jésus y a été. Même les déserts où il y avait des démoniaques et personne ne voulait aller, Jésus y passait. On voit que Jésus a parcouru Israël pendant 3 ans, on va dire 3 ans, on sait que c'est plus ou moins 3 ans. C'était son temps de ministère. Il a été. Et on voit que pendant ce temps de ministère, Jésus a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Jésus, plus que personne d'autre, connaissait la vérité au niveau de l'être humain. Il savait le constat. Il a fait un juste constat de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il est descendu du ciel. Jésus ne se laissait pas avoir par les apparences. Il venait du Père pour annoncer la vérité qu'il avait entendue de son Père. Et cette vérité, c'est cette grâce que Dieu, en fait, donne concernant les péchés des hommes. Mais c'est aussi la bonne nouvelle que le royaume du Père vient avec rapidité, vient bientôt. C'est important. Et parce que Jésus connaît cette vérité, il l'enseignait dans les synagogues et prêchait la bonne nouvelle du royaume. Il ne se taisait pas. Il était intentionnel. Jésus voulait sauver des êtres humains. Il voulait les sauver. Il connaissait. Il connaissait l'envergure du problème. Deuxièmement, Jésus affirme son identité par les miracles nombreux et il rejoint la personne dans sa souffrance. On voit que Jésus guérissait toute maladie. Pas dire une petite maladie de temps en temps. Jésus, quand il était sur terre, les gens lui amenaient tous les malades et Jésus presque les guérissait, presque tous. Lépreux, paralytique, aveugle, mort. C'est pas une maladie la mort, mais il les ressuscitait. En fait, la première raison est que Jésus, par ses nombreux actes de puissance, de guérison, de miracle, en fait, il montre sa véritable identité de Messie. Il montre que rien lui est impossible. Aucun des problèmes humains ne résiste à Jésus-Christ. Aucun. L'être humain, il a peur de la tempête. L'être humain a peur de la mort. Dans ces deux cas, Jésus-Christ a montré qu'il était capable de l'apaiser ou soit de la renier, si je peux dire, ou de la contrecarrer. Je ne sais pas comment on peut dire. La deuxième raison est que Jésus rejoint les êtres humains aussi dans leur souffrance. Parce qu'il guérissait les malades, il ne montrait pas par là qu'il était insensible à la souffrance. Jésus guérissait ces gens, allait les voir, répondait à leurs besoins primaires. Ça me fait toujours un peu rire ce genre d'évangélisation où on prêche le message de la parole de Dieu sans rejoindre la personne dans sa souffrance. C'est un peu un non-sens. Jésus faisait jamais ça. Il guérissait les malades parce qu'il avait compassion des malades. Aujourd'hui, on sait que Jésus-Christ est vivant et qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Qui pense ça? Qui le sait vraiment? Moi, je le sais. Amen. On est bien dans une église, c'est chouette. On sait que Jésus-Christ est vivant et ressuscité. Et le service que nous lui rendons, nous, en tant que disciples, n'est pas différent de son œuvre, mais c'est juste la continuité de son œuvre. La première épître de Jean, au chapitre 4, verset 17, nous dit que tel Jésus-Christ est dans ce monde, tel nous sommes dans ce monde. En fait, il y a cette dimension, à partir du moment où le Saint-Esprit est venu habiter en nous, il y a cette dimension incarnationnelle. Dieu est de nouveau en nous et il aimerait faire son ministère au travers de nous, continuer son ministère. Jésus-Christ aimerait travailler au travers de nous. C'est vraiment important à savoir, on ne peut pas renier ça. Quand on a le Saint-Esprit, sachez qu'il y a la petite voix en vous qui dit ben, « Christ aimerait continuer à ministrer, je ne sais pas, je vais inventer un verbe, ministrer au travers de vous. » On est ambassadeur du royaume de Dieu. On représente le royaume de Dieu sur terre. Et parce qu'on a reçu du Seigneur, on doit donner. Vous savez, il y a un verset super qui dit en Matthieu 10, verset 8, « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu? La grâce, l'Esprit Saint, le pardon, peut-être certains ont reçu la guérison, même physique, hein, ou émotionnelle. Vous avez reçu gratuitement, donné avec largesse gratuitement. Donnez, n'ayez pas peur, donnez gratuitement. C'est comme ça que l'évangélisation peut se faire aussi. Et on voit en deuxième lieu que Jésus a été motivé par autre chose encore dans son évangélisation, si je peux dire. Et ce sera notre deuxième grande source de motivation pour témoigner. Jésus a été motivé par la compassion en voyant un monde sans berger. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante. Elle était abattue, comme des brebis sans berger. C'est clairement l'amour qui a motivé Jésus-Christ dans sa démarche d'aller partout dans toutes les villes et villages. C'est clairement l'amour. Derrière le mot compassion, merci. Derrière le mot compassion, en fait, il y a cette notion de Jésus avait cette profonde sympathie pour le peuple. Cette profonde sympathie. Il était touché quand il voyait cette foule en face de lui comme étant languissante, abattue, sans berger. Les bergers d'Israël, ils étaient censés être les chefs religieux du temps de Jésus. Les pharisiens, les scribes, tous ceux qui dirigeaient le peuple. Seulement, ces dirigeants ne pensaient qu'à eux-mêmes. Ces dirigeants, ils exigeaient du peuple une obéissance complète, alors qu'eux-mêmes n'obéissaient pas. Et par là, ils blessaient les brebis, il les désillusionnait et il fermait la porte d'accès au royaume de Dieu. Et Jésus, il voit ça. Il voit ce troupeau de personnes, cette foule en face de lui, et il trouve qu'elle est abattue, languissante, blessée, apeurée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chat jouer avec une souris. Cette illustration n'est peut-être pas au top, mais elle pourra faire l'affaire quand même. Vous avez déjà vu un chat qui joue avec une souris? La souris, elle est pas bien du tout. Elle a peur. Le chat, lui, il est tranquille. Il donne un coup de patte, un coup de griffe. Il la mordit un peu, puis il la laisse partir un peu. Elle saigne un peu, mais il la laisse un peu partir. Et puis, il va la rejoindre. Puis il finit par la croquer un bon coup. Et bon, il la mange pas, mais il la laisse là. Et c'est un peu le constat ici. Les chefs religieux étaient comme ça. Ils laissaient là une foule blessée, désillusionnés, abattus. Et dans le monde qui nous entoure, combien de personnes sont lassées, désillusionnées, même par les grandes religions du monde? On entend encore au journal parler, on entend dernièrement les scandales avec, encore une fois, l'Église catholique. Mais je ne vais pas appuyer ça maintenant. Mais j'aimerais juste dire que les grandes religions du monde, le catholicisme romain aujourd'hui, encore, désillusionne de nombreuses personnes. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on peut être sauvé que dans l'Église, premièrement, et qu'on peut être sauvé que par le baptême, en se faisant baptiser nourrisson, notamment. Mais là, en faisant ça, c'est qu'ils ferment la porte au salut à de nombreuses personnes. Et ça, c'est horrible. Pardon? N'ont pas le droit de... Oui. Tout à fait. Oui. Merci. Oui. Oui. Merci, ma sœur. Et on voit ça notamment aussi avec le mormonisme. C'est un peu plus discret aujourd'hui, mais le mormonisme, les mormons, ils se disent chrétiens. Vous allez sur Internet, ils sont chrétiens. Et puis quand vous entrez dedans, vous vous faites avoir par des rites franc-maçonniques et toutes sortes de choses, mais hyper mystiques. Et les gens sont lassés, désillusionnés, parce qu'ils cherchaient la vérité et ils ont été pris au piège. Et puis ils sont laissés pour compte. Et puis plus proche de chez nous, ici en Belgique, les témoins de Jéhovah, le clergé même des témoins de Jéhovah, qui ont blessé des personnes, de nombreuses personnes, aussi par la pédophilie. Combien de personnes sont désillusionnées par les témoins de Jéhovah et sont sorties, mais maintenant pour les ravoir, pour leur parler du Seigneur, c'est une toute autre affaire. Parce qu'ils ont été blessés. Ils veulent même plus intégrer la possibilité qu'il y ait un Dieu au-dessus d'eux. Et puis, n'oublions pas les nombreux blessés de la vie autour de nous. Tous ceux qui sont blessés par leur propre péché et par le péché des autres. Jésus avait compassion de la foule. Jésus, en les voyant, était touché de profonde sympathie pour eux. Et il voulait les rejoindre. La compassion, c'est quelque chose de fragile et je pense qu'il y a deux ennemis à la compassion et on va en voir deux ici, c'est l'égoïsme, c'est-à-dire le penser qu'au moi, au je, hein, l'ego. Imaginez, vous témoignez à une personne et vous êtes en face d'elle et vous savez que vous devez lui témoigner et vous avez un peu peur. Et là, dans votre tête, il y a « mais j'attendrai bien un peu » ou « je suis pas sûr que j'ai la force » ou « je sais pas ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va penser » ou « si je lui témoigne maintenant, ça va me prendre un peu plus de temps et je vais un peu rater ma soirée. » Laissez-moi vous dire que le « je » dans les pensées, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Parfois, en effet, on peut pas et on a du mal à témoigner, c'est difficile. Et je veux pas mettre la pression, mais je veux qu'on soit attentif, que dès qu'on témoigne à une personne, il y a d'autres pensées qui viennent dans notre cœur pour qu'on le fasse pas. Le « je », le « moi ». Un deuxième ennemi de la compassion, c'est le confort et le matérialisme, l'amour du monde. Jésus a dit que dans la fin des temps, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais pourquoi est-ce que l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir? Mais parce qu'il y a un amour qui est déplacé, qui est mis ailleurs. L'ambiance générale, le péché, le plaisir du péché, le plaisir du monde, le confort. L'iPad Pro, j'en ai un. Heureusement, il sert à la gloire de Dieu. Le dernier smartphone. Et même l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie en fait, c'est la gloire du monde. Mais ça, c'est un tue-compassion. C'est un tue-compassion. Ne laissons ni l'égoïsme, ni le confort lié au matérialisme anéantir notre désir de partager la bonne nouvelle. Si on a cette tendance à glisser, demandons au Seigneur tout simplement de renouveler la compassion en nous. Seigneur, je manque de compassion pour le monde. Et même je m'attache à d'autres choses. Renouvelle en moi cette compassion. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, trois petits points, et on voit que la compassion de Jésus pour le monde le pousse à demander une prière. Et ce sera notre troisième source de motivation ici pour évangéliser. Jésus demande à ses disciples en fait qu'ils prient parce que la moisson est grande. Et qu'il y a peu d'ouvriers. Aussi simple que ça. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Verset 37. En fait, je me baladais cette semaine parce qu'il a fait super beau cette semaine et c'était vraiment agréable. Je me baladais cette semaine et il y a des grands champs près de chez moi. Et je me baladais à côté d'un de ces champs et je passais et je vois au loin ce fermier dans son champ. Et je vois au loin ce fermier qui avait l'air si petit avec son petit tracteur et cet énorme champ à perte de vue. Et je me suis dit, mais waouh, il a l'air tellement petit et pourtant il a encore tellement de travail. Dans notre texte ici, Jésus est très clair au sujet de la moisson. Elle a deux caractéristiques et elles nous pousseront à faire deux choses. Premièrement, la moisson, elle est grande. Elle est grande. C'est pas quelque chose de compliqué. Elle est grande. Et non seulement c'est une récolte de la plus haute importance en termes de qualité, c'est des âmes qui doivent être sauvées, mais c'est une récolte importante en termes de grandeur. Il y a beaucoup à moissonner. Jésus y voit la foule, et c'est une grande foule sans berger, et il dit « la moisson est grande ». Il y a quelques années, dans tout le continent africain, il y avait un évangéliste qui se nommait Reinhard Bonnke, je ne sais pas si vous connaissez, et maintenant il a terminé son ministère et il l'a passé à un autre. Et cet évangéliste tenait des soirées dans tout le continent africain, et il y avait ces grandes plaines d'Afrique remplies de plus de 3 millions de personnes pour entendre le message de l'évangile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la foule innombrable qu'il y avait. La moisson est grande. Et Jésus nous choque ici, hein, il va nous choquer, et il fait le contraste entre cette moisson gigantesque et une réalité interpellante. Il y a peu d'ouvriers dans cette moisson. Il y a peu d'ouvriers. Et on voit ça. En fait, je repense à mon fermier tout seul dans son champ. Je m'étais dit, mais enfin, comment est-ce qu'il va faire? La moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. En fait, depuis que Jésus est venu sur terre et va revenir, c'est comme un principe général. La moisson va rester grande et il y aura toujours peu d'ouvriers. Et quelle est la réaction d'un fermier quand il a peu d'ouvriers, dites-moi? Quelle est la réaction d'un fermier quand il sait qu'il y a une grande moisson et qu'il a peu d'ouvriers? Pardon? Il travaille plus, oui. J'avais autre chose en tête. Amen. Il fait appel à des renforts. Jésus ici, c'est comme s'il disait, c'est comme s'il passait une annonce dans le journal. À tous ceux qui entendent sa voix, il dit, la moisson est grande, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître. L'apôtre Paul nous dit ceci en Romains 10, 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Hyper logique, hyper facile, et pourtant combien difficile à intégrer. Il y a peu d'ouvriers qui annoncent l'évangile aujourd'hui. Il y a peu d'ouvriers. Mais si personne ne le fait, la moisson ne se fera pas. C'est aussi simple que ça. Voilà quelque chose qu'on peut faire en tout premier lieu. C'est demander, c'est prier le Seigneur, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pour donner un exemple personnel, en fait, ce que je fais en général quand je vois une personne pour la première fois et que j'ai l'occasion de lui parler de Jésus et qu'après on se quitte, Seigneur, s'il te plaît, permets à un autre ouvrier qui est plus proche d'elle que moi, parce que moi je la reverrai plus, envoie un autre ouvrier dans ta moisson. Dans son livre « Implantation d'église dans une Europe post-chrétienne », Johan Lucas, qui a été président de la mission évangélique belge, fait le constat qu'il faut en moyenne 4 personnes pour qu'un non-croyant vienne à Jésus-Christ. Dans la vie d'un non-croyant, il faut 4 chrétiens, plus ou moins. Père, suscite des ouvriers dans ta moisson. S'il te plaît, Père. Mais ce serait trop simple, j'avoue, ce serait trop simple de simplement faire cette prière et puis de se sentir complètement dégagé. Hein? Et c'est pourquoi Jésus envoie ses disciples dans le champ lui-même. Et on voit ça juste au chapitre après, 10, verset 1. On voit juste que Jésus a appelé ses 12 et les a envoyés. Parce que les disciples auraient été dans l'erreur de croire, Père, envoie des ouvriers dans ta moisson. Et puis de se taire et puis de pas bouger. Non, non, ça c'est juste pas possible. Au verset 1 du chapitre 10, on va juste le lire. « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. » Et au verset 5, « Tels sont les 12 que Jésus envoya. » Les disciples auraient été dans l'erreur de penser qu'ils pouvaient se dégager d'une telle responsabilité. « Tout enfant de Dieu a le devoir d'annoncer les vertus de Dieu à son entourage. » Tout enfant. Une fois qu'on est né de nouveau, on a ce devoir-là. On l'a même pas choisi. Hein. C'est comme ça. Par exemple, tout citoyen belge, hein, ont le devoir d'un jour, peut-être, en période d'élection, le citoyen belge a la possibilité d'être appelé pour être un assesseur. Parce qu'il est belge, il est possible qu'il soit un jour appelé pour être assesseur. Et devoir faire tout ce qu'un assesseur fait. Mais ici, c'est davantage plus fort. parce qu'on est né de nouveau, parce qu'on est chrétien, on a le devoir. Et là, on est appelé tous les jours. On a le devoir d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à un monde qui est perdu. On est ouvrier dans notre cercle d'influence. Vous avez un cercle d'influence, j'en ai un. Là où on est ouvrier, on peut parler du Seigneur. Dieu nous a disposés à ces endroits, bien stratégiquement. Et il souhaite utiliser chacun et chacune dans sa moisson. Alors, j'aimerais terminer le message par une quatrième source de motivation pour évangéliser et témoigner. Et cette quatrième source de motivation est en soi une caractéristique de la moisson. Mais elle ne se voit pas ici dans le texte qu'on a vu. On va lire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 35, mais je l'affiche directement. On dit ceci, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Quatrième source de motivation pour l'évangélisation et le témoignage, c'est que la moisson est davantage mûre, plus que l'on voudrait bien le croire. Je trouve ça super comme titre de prédication. La moisson est davantage mûre, plus qu'on voudrait bien le croire. Souvent, on comprend mieux ici en Belgique ce que c'est de semer la parole. Hein, on comprend bien ça parce que souvent, quand on parle de Jésus à des gens ici, ben on est face à un constat. Ces gens ne semblent pas manifester la vie ni l'envie de croire en Jésus-Christ. Et donc, on dit facilement, oh ben, j'ai semé la parole. On a cette réflexion en nous, oh ben, quelque part, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais vous est-il déjà arrivé de penser que les champs déjà blanchissent pour la moisson? Jésus peut nous envoyer vers des gens qui sont déjà mûrs pour être récoltés et moissonnés. Il peut. Et c'est la mission qui avait été donnée aux premiers disciples. Les premiers disciples ont été envoyés dans un champ où d'autres avaient travaillé. Les prophètes de l'Ancien Testament notamment, et puis en dernier lieu Jean-Baptiste, il avait préparé les voies du Seigneur. On fait quel est le résultat là-dessus? Ben, Pierre prêche à la Pentecôte et 3000 âmes sont sauvées, d'un coup. Pierre et Jean prêchent ensuite et 2000 âmes sont encore ajoutées à l'Église. Philippe l'évangéliste prêche en Samarie et des âmes sont sauvées directement. Philippe l'évangéliste encore rencontre un eunuque. Cet eunuque lui dit, oh non, non, il lui dit pas ça, non, non. Il dit, amen, je crois. Et Pierre rencontre Corneille et tous ceux dans la maison de Corneille. Et quand Pierre prêche, le Saint-Esprit descend sur eux et ils sont nés nouveaux. Ils sont nés nouveaux. Toutes ces personnes étaient prêtes pour la moisson. Elles étaient mûres. Mûres à être récoltées. Levez les yeux, dit Jésus. Et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a donc une dimension de la grande mission que Jésus nous demande, qui est non de semer la parole, mais plutôt de récolter. Et ça m'a fait réfléchir. Si nous passions un peu, et je vais être un peu délicat là, si nous passions un peu trop de temps à vouloir semer la parole de Dieu là où elle n'a pas de fruits, là où elle ne prend pas, là où on est confronté à un mur, tout le temps, constamment. Et même, je trouve, attention, semer c'est important, attention, je le dis bien. Mais comme il existe cette dimension de la moisson qui est déjà blanche et mûre, pourquoi pas demander au Seigneur Jésus-Christ de nous envoyer vers les personnes qui sont blanches et mûres pour la moisson? C'est une possibilité. En fait, alors il s'agit plutôt d'être à l'écoute de Dieu, plutôt que de semer un peu partout, sans savoir trop. Bien qu'il s'agissait d'une époque charnière, ici avec Pierre, Jean et les disciples, Pierre était guidé par l'Esprit Saint. Pierre a été guidé vers Corneille et il y a eu du résultat. Philippe est guidé vers l'eunuque et il y a eu du résultat. Guidé par l'Esprit. Paul a été guidé en Macédoine par l'Esprit Saint. Il a eu une vision. Va en Macédoine. Par contre, l'Esprit Saint lui a dit, non, va pas là, ne va pas là. Pourquoi? On ne sait pas, mais peut-être parce que ça n'allait pas prendre. On ne sait pas. Toujours dans le même livre de Johann Lucas, il parle en fait de ces rencontres orchestrées par l'Esprit Saint, comme des rencontres, des rendez-vous divins. Ce sont des rendez-vous orchestrés par l'Esprit et ils sont fructueux. Le Seigneur donc aimerait peut-être nous envoyer vers des personnes qui sont mûres. C'est possible aussi. Et on a une prière à faire alors. C'est « Seigneur, guide-moi vers les bonnes personnes. » Car comme tu l'as dit, la moisson est déjà blanche. J'aimerais conclure avec cette belle image que le Seigneur m'a donnée en balade encore cette semaine. J'ai beaucoup baladé cette semaine. Il y avait cette pancarte dans les champs et dessus il était écrit « Ici sortiront bientôt de terre de jolies fleurs cultivées avec amour en respectant la nature », signé le nom de la personne. Et c'est comme si le Seigneur me disait « Je suis occupé à cultiver avec amour un champ d'âme, que tu dormes, que tu te lèves, que tu sois éveillé. Cette semence, elle pousse et tu n'en sais rien. Tu n'en connais pas le mouvement. Pourtant, il est constant et il est fait avec amour dans la vie de ces personnes. Je les ai appelées par grâce et bientôt, elles pourront être moissonnées. » Voilà l'image que le Seigneur m'a donnée. Je voulais nous encourager avec ça. Soyons prêts à semer la parole de Dieu, mais aussi à récolter la parole de Dieu. Et j'aimerais nous laisser ici 4 images qui nous faciliteront. Jésus a été intentionnel, il a été. Il avait l'intention de sauver des hommes. Il a eu compassion des gens. La moisson, elle est énorme et il y a peu d'ouvriers. Il est l'heure parce que la moisson est déjà blanche. Alors allons-y. Amen.